Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1978. Le son reprend le discours inaugural prononcé par Roland Barthes le 7 janvier 1977 au Collège de France, à l'ouverture de la chaire de sémiologie littéraire créée pour lui. Ce bref essai, à la fois intervention institutionnelle, réflexion critique et programme intellectuel, condense plusieurs lignes majeures de son parcours. Barthes y examine le pouvoir qui traverse la langue, non comme simple instrument neutre de communication, mais comme système de formes et de contraintes. Sa formule sur le caractère fasciste de la langue désigne moins une doctrine politique qu'une obligation structurelle à dire selon des codes disponibles. Face à cette contrainte, la littérature apparaît comme une pratique de déplacement, de jeu et de pluralisation des sens. La leçon définit aussi une manière d'enseigner sans ériger le savoir en autorité close. Elle propose une sémiologie attentive aux signes, mais aussi à leurs fuites, à leurs ambiguïtés et aux désirs qui animent la lecture comme l'écriture. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la langue comme système d'obligation plutôt que comme outil innocent, le point de départ de leçon est une analyse du pouvoir logé dans la langue. Barthes ne réduit pas ce pouvoir à la censure exercée par un État, une institution ou un locuteur dominant. Il le situe plus profondément dans le fonctionnement même de tout idiome. Pour parler, il faut sélectionner des mots, adopter des catégories grammaticales, organiser des relations logiques et se soumettre à des formes héritées. La langue rend donc la parole possible tout en la dirigeant, lorsqu'il qualifie la langue de fasciste. Barthes emploie une formule volontairement provocatrice afin de distinguer deux réalités empêchées de parler et obligées à parler selon certaines structures. Son propos ne consiste pas à condamner l'usage du langage, tâche impossible, mais à rendre perceptible ce qui semble naturel. Cette vigilance change le rôle de la sémiologie. Elle ne doit pas seulement inventorier des signes ou décoder des messages. Elle doit repérer les classements, les évidences et les impératifs que les signes rendent acceptables. La réflexion vise ainsi les discours les plus ordinaires autant que les langages savants, en révélant les contraintes formelles de l'énonciation. Barthes invite à une liberté modeste mais active, non sortir de la langue, mais multiplier les manières de l'habiter et résister à la fixité des sens imposés. Deuxièmement, la littérature comme pratique d'esquive et de déplacement des codes, face au pouvoir inévitable de la langue, Barthes attribue à la littérature une fonction particulière. Elle ne procure pas un dehors pur, exempt de règles ou d'idéologie, car elle travaille elle aussi avec des mots et des formes codifiées. Sa force tient plutôt à sa capacité de déplacer les codes, de les exhiber, de les combiner autrement et de les rendre moins autoritaires. La littérature devient le lieu d'une tricherie salutaire avec la langue, elle ne supprime pas les contraintes, mais en déjoue la prétention à imposer un sens unique. Cette conception écarte une vision décorative de l'art littéraire. Écrire n'est pas simplement transmettre un contenu sous une forme élégante. C'est intervenir dans les conditions mêmes de ce qui peut être dit, pensé et interprété. La pluralité des voix, les détours stylistiques, l'ironie, les ruptures de registre ou l'ambiguïté ne sont donc pas des ornements secondaires. Ils constituent des moyens de suspendre les automatismes du discours. Barthes valorise ainsi une littérature qui maintient le langage en mouvement. Cette perspective explique le lien étroit qu'il établit entre lecture et liberté. Le lecteur n'a pas à extraire une vérité définitive du texte, mais à suivre les circulations de sens qu'il rend possible. La littérature est moins un refuge hors du pouvoir qu'une expérimentation concrète de ses limites. Troisièmement, de la science des signes à une sémiologie consciente de ses propres limites. La chaire de sémiologie littéraire donne à Barthes l'occasion de préciser une discipline qu'il a largement contribué à diffuser en France. La sémiologie étudie les systèmes de signes et les mécanismes par lesquels les sociétés produisent du sens. Dans le son, elle ne se présente toutefois pas comme une science souveraine capable de dominer définitivement son objet. Un tel projet risquerait de reproduire l'autorité qu'il prétend analyser, en fixant les significations dans un métalangage stable. Barthes insiste au contraire sur la mobilité des signes et sur le fait que toute analyse est elle-même prise dans le langage. La sémiologie doit donc rester réflexive, elle observe les codes sans oublier qu'elle formule ses observations à travers d'autres codes. Cette réserve ne mène pas au relativisme indifférent. Elle impose une méthode plus exigeante, attentive aux conditions de production d'un discours, aux effets de classement et aux résistances du texte à l'interprétation. La littérature importe ici parce qu'elle met en crise le rêve d'un savoir entièrement transparent. Elle montre que le sens ne se laisse pas toujours réduire à une information à déchiffrer. Barthes articule ainsi rigueur critique et refus de la clôture doctrinale. La sémiologie qu'il esquisse est moins une technique de décodage qu'une pratique de lecture capable de reconnaître l'opacité, la pluralité et l'inachèvement constitutif des significations. Quatrièmement, le plaisir du texte comme relation imaginaire au signe. le son prolonge les réflexions de Barthes sur le plaisir du texte en les insérant dans son projet de sémiologie littéraire. Le signe n'y est pas seulement l'unité abstraite d'un système de communication. Il peut devenir l'objet d'un investissement imaginaire, sensible et désirant. Cette dimension ne remplace pas l'analyse des structures, mais elle empêche de traiter la lecture comme une opération froide de décryptage. Un texte agit aussi par ses rythmes, ses attentes, ses ruptures, ses résonances et les images qu'il met en circulation. Le plaisir désigne alors une relation active aux formes du langage, et non une simple satisfaction passive. Il ne garantit ni l'accord avec le texte, ni la possession d'un sens final. Au contraire, il peut naître de l'incertitude, du retard de la signification ou de la coexistence de plusieurs interprétations. Cette importance accordée au désir modifie le statut du critique. Celui-ci ne peut plus se présenter comme un observateur parfaitement extérieur, détaché de son objet par une méthode infaillible. Il doit reconnaître les investissements qui orientent sa lecture. Barthes ne demande pas d'abandonner la pensée au profit de l'impression personnelle. Il propose de comprendre que le savoir sur les textes est toujours affecté par une expérience du langage. La sémiologie littéraire devient ainsi une discipline qui associe attention aux formes, conscience des codes et écoute des effets singuliers produits par l'écriture. En dernier lieu, un enseignement fondé sur le désir plutôt que sur la maîtrise professorale dans ce discours d'entrée au Collège de France. Barthes réfléchit également à la situation paradoxale de l'enseignement. Prononcer une leçon inaugurale dans une institution prestigieuse suppose une parole autorisée, alors même que son analyse dénonce les mécanismes de pouvoir attachés au langage. Sa réponse ne consiste pas à nier cette contradiction, mais à chercher une autre manière d'occuper la position professorale. Il refuse de faire du cours la transmission verticale d'un savoir définitivement acquis ou l'application mécanique d'une méthode. L'enseignement souhaité doit pouvoir suivre les allées et venues d'un désir de recherche, avec ses déplacements, ses hésitations et ses reprises. Cette orientation valorise une parole qui expose ses opérations plutôt qu'elle ne proclame des résultats intangibles. Elle implique également que les auditeurs ne soient pas réduits à recevoir une doctrine, ils sont appelés à partager une activité de lecture et de questionnement. Une telle conception ne supprime ni les savoirs ni les exigences intellectuelles. Elle conteste plutôt leur conversion en instrument de domination symbolique. Le son se distingue par cette tentative de faire de l'institution universitaire un espace de mobilité critique. Barthes y définit la chaire non comme une tribune destinée à imposer un langage légitime, mais comme un lieu où l'on peut examiner les pouvoirs du langage et expérimenter des formes de paroles moins closes. Son programme demeure volontairement ouvert, car l'ouverture constitue précisément sa condition éthique et intellectuelle. En conclusion, le son s'adresse en priorité aux lecteurs de Roland Barthes, aux étudiants et enseignants en littérature, linguistique, sciences humaines ou philosophie du langage. Mais sa portée dépasse ces domaines. Sa brièveté, en fait, une porte d'entrée concentrée vers une pensée exigeante, à condition d'accepter une écriture dense et volontiers conceptuelle. On y gagne des instruments pour interroger les discours qui paraissent les plus naturels, les catégories par lesquelles une société ordonne le réel. Les autorités qui se présentent comme neutres et les contraintes silencieuses qui accompagnent toute prise de parole. Le livre éclaire aussi la littérature autrement que comme un patrimoine à commenter. Elle y devient une pratique des formes, capable de déranger les classements du langage sans prétendre en évader définitivement. Comparé à un manuel de sémiologie ou à un essai académique systématique, le son se distingue par sa forme performative. Barthes ne livre pas une théorie exhaustive assortie de protocoles d'analyse. Il met en scène le problème d'une parole savante qui veut critiquer le pouvoir sans en reproduire aveuglément les gestes. Cette tension donne au texte sa force durable. Il conjugue réflexion sur les signes, attention au plaisir de lire et interrogation sur l'acte d'enseigner. Pour qui cherche moins des définitions closes qu'une méthode de vigilance envers le langage, ce discours constitue un repère bref, stimulant et intellectuellement singulier. Si vous souhaitez soutenir Roland Barthes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.